Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 13. 22 août 2025.
Kessler avait raison depuis le début, dit Laurie. Tu sais, quand la fille de la JAXA m'avait contacté pour essayer de comprendre l'origine de la fragmentation de leur télescope, je lui avais parlé du syndrome de Kessler pour lui expliquer ce qui avait pu se passer avec les deux Skylink et leur télescope. J'y croyais pas vraiment à ce moment-là. Mais en fait, on y est maintenant. On y est. Ça continue à augmenter. Ça va pas s'arrêter.
J'ai vu les chiffres de ce matin, répondit Lars. C'est pas joli joli. Hein. Je me demande ce que va faire Misk maintenant.
Tout ça, c'est de sa faute. S'il n'avait pas décidé de mettre des milliers de trucs en orbite basse, les autres compagnies n'auraient pas emboîté le pas et on n'aurait pas eu cette course insensée à celui qui aurait la plus grosse constellation. Tu sais, cette réaction en chaîne, ça me rappelle la réaction en chaîne de la fission nucléaire. C'est très similaire, dit Lars. Le jeune ingénieur avait étudié la physique nucléaire à Penn State University avant de se tourner vers l'informatique. Pour la fission de l'uranium, il existe un seuil pour que ça devienne critique. Si tu n'as pas assez de masse, ça ne marche pas. Mais dès que tu as juste suffisamment de masse, c'est parti et ça ne s'arrête plus.
Ah ouais? Fit Laurie. Et à chaque fission d'un noyau d'uranium, on libère deux ou trois neutrons et chacun d'eux peut induire une nouvelle fission dans un autre noyau voisin, tu vois. Mais il faut que les noyaux voisins soient suffisamment nombreux, sinon le neutron peut s'échapper et ne pas faire de nouvelle fission. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a juste dépassé un seuil dans le nombre de satellites en orbite basse, comme la masse critique d'uranium. Il a suffi d'une seule fragmentation quelque part, un neutron incident à la bonne énergie, pour continuer mon analogie, et boum, c'est parti.
Ça serait la fragmentation du Skylink du 11 juillet, ton allumette ?
Dit Laurie avec une voix triste.
Peut-être, ou plutôt un gros impact le 5 août, fit Lars.
Moi, je me demande ce que pense Donald Kessler de tout ça.
Tu crois qu'il est au courant ?
Il est vieux maintenant, non ? Demanda Laurie.
Il doit avoir dans les 85 ans, je pense. En tout cas, il est sûrement déjà au courant. Il a dû garder plein de contacts à la NASA, j'imagine.
Tu crois ? 20 ans après sa retraite ?
Oui, certainement, dit Laurie.
Ça doit être terrible pour lui.
Imagine, il avait alerté sur ça depuis tellement longtemps.
Il me semble qu'il avait été le premier, avant 2010, à dire que les constellations de satellites de communication étaient une folie.
Je repense à ta comparaison avec la fission de l'uranium. Il y a quand même une énorme différence.
Ouais, quoi ?
Bah ouais, dans l'uranium, les neutrons qui sont produits lors de la fission du noyau, ils finissent par disparaître s'ils ne sont pas absorbés par un autre noyau. Ils sortent du matériau, quoi. Mais nous, les débris, ils peuvent rester très longtemps avant de rentrer dans l'atmosphère. Et donc, ils s'accumulent en orbite, et ils peuvent toujours produire de nouvelles fragmentations, même plusieurs années après leur création. Ça change tout, ça.
Tu as raison, Laurie. Mon analogie n'est sans doute pas bonne, mais pour l'effet de seuil, ça semble quand même un peu pareil. D'ailleurs, je me demande si Kessler n'avait pas parlé de seuil dans un de ses papiers. Peut-être pas celui de 78, mais un autre, je crois.
On peut regarder, si tu veux.
Oh non, c'est un détail, ne perds pas de temps avec ça. De toute façon, c'est pas le fait de savoir s'il y a un seuil ou pas qui va nous permettre d'arrêter ce truc, répondit Lars.
Sauf si on arrivait à repasser en dessous du seuil.
On en était à combien ce matin pour les débris décimétriques ? Demanda Laurie.
Je n'ose plus regarder maintenant.
C'était plus 1209, pour un total de 48624. Répondit Lars.
Putain, je serais curieuse de savoir combien ils ont perdu de Skylink depuis le 5 août.
Vu comment ça augmente et que ça a l'air exponentiel, parce que l'incrément quotidien augmente toujours lui aussi, ça doit certainement se compter en plusieurs par jour, hein, j'imagine. Et ça ne pourra qu'augmenter dans les jours et les semaines qui viennent. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul.
Et c'est ça le pire, c'est que ça va tout bousiller, pas seulement les Skylink, mais tous les autres satellites dans l'orbite basse. fit Hillary. Est-ce que tu crois qu'on pourrait modéliser cette catastrophe pour essayer de voir jusqu'où elle peut s'étendre en altitude? Quels sont les satellites qui pourraient y échapper, tu veux dire? Ouais, ça intéresse forcément les opérateurs, qui doivent avoir le trouillomètre à zéro en ce moment. Le trouillomètre à zéro, sourit Laurie. Je n'avais plus entendu cette expression depuis au moins 15 ans. Lars rougit. Excuse-moi, j'utilise parfois des vieilles expressions, mais tu as compris ce que je veux dire, hein? T'excuse pas, elle est marrante, cette expression. D'ailleurs, je crois que les opérateurs de satellites ne sont pas les seuls à avoir peur de l'avenir en ce moment. Bon, effectivement, ça peut être intéressant de savoir jusqu'où ça pourrait s'étendre. Je pensais aussi à la station chinoise. Ah oui, ils l'ont remontée à combien déjà? Ils l'ont annoncé hier, mais je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait. Ils ont parlé de 1200 kilomètres, répondit Lars. 1200? Ça risque d'être un peu limite, hein, tu crois pas? Demanda Laurie. Je ne sais pas, c'est quand même assez loin de l'orbite d'Envisat et de la plupart des Skylink. Alors, et leur navette militaire, on sait à quelle altitude elle était? Ils ne l'ont pas précisé dans leur annonce d'hier, il me semble. Non, non, ils ne l'ont pas dit, répondit Lars. Je te confirme. Eh, ils n'allaient tout de même pas dire ça. Déjà, le fait qu'ils annoncent au monde entier qu'ils ont perdu leur bijou très secret, je pense qu'ils ont dû y réfléchir à deux fois. Hein. Je suis pas certain que nous, on le dirait. Elle devait être forcément à moins de 1200 kilomètres. Sinon, ils n'auraient pas décidé d'envoyer leur station à cette altitude. Ils auraient pensé que c'est une orbite dangereuse, fit Laurie. Ouais, sans doute. Tu penses que l'événement déclencheur du 5 août, ça serait cette navette? Demanda Lars. Je me disais que c'est quand même un très gros engin. Si elle est aussi grosse que le X-37B, elle devrait faire dans les 8 tonnes. Et si elle a été fortement fragmentée, ça pourrait faire les plus de 500 débris décimétriques qu'on a vus le 5 août. Tu penses à une collision frontale avec un autre satellite, du coup? Du genre Iridium 33 Cosmos 2251? Qui sait? Mais si on voulait savoir ça, il faudrait connaître exactement quelle était la trajectoire de cette navette. Et ça, on le saura jamais, j'en ai peur, dit Laurie. Les manœuvres de la station Tiangong avaient débuté dès l'annonce officielle de la CNSA. Les deux taïkonautes avaient dû prendre place dans le module orbital du Shenzhou. Avant d'effectuer la poussée, les Chinois devaient séparer le module de ravitaillement Tianzhu, qui était encore arrimé à la station, même si ce dernier n'avait pas ses réservoirs d'hydrazine complètement vides. Il ne pouvait pas être utilisé pour accompagner la poussée, malheureusement, et il était préférable de réduire la masse totale de l'ensemble. Ce n'est qu'après une séparation de plusieurs centaines de mètres que la puissante poussée vers le haut put débuter. Li Tang observait l'éloignement du module Tianzhu par le hublot du module orbital. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Tang. « Viens voir ça !» lança-t-il à son compagnon. Guo Chang se rapprocha du hublot. « Des débris !» fit Chang. On pouvait apercevoir une sorte de traînée lumineuse qui partait de la partie basse du Tianzhu et qui partait vers le haut. « C'est le réservoir ?» lança Tang, qui n'avait jamais vu une chose pareille. « Étant donné la forme de ces débris, je crois pas que ce soit une explosion du réservoir. Ça serait à peu près sphérique. » « Regarde, on dirait que ça se développe dans un sens, uniquement vers le haut et pas vers le bas. »« Oui, c'est très étonnant. Appelons le centre de contrôle, » dit calmement Guo Chang. Le nuage de débris qui apparaissait formait un faisceau de forme rectiligne dans la direction orthogonale à leur ligne de visée. Tianzhu se trouvait à environ 2 kilomètres de distance. Le commandant Chang avait compris qu'il venait d'échapper au pire. Tianzhu a dû subir un impact d'un petit objet venant du bas à grande vitesse. Un nuage de débris de forme conique, maintenant, se développe autour de Tianzhu, annonça Chang dans le micro. Les deux taïkonautes avaient été mis au courant dès le départ de ce qui était en train de se dérouler dans la zone de l'orbite basse. Ils savaient qu'ils prenaient un risque très élevé pour sauver la station spatiale. Ils étaient fiers de servir leur patrie. Et quoi qu'il arrive, tous les deux savaient qu'ils seraient considérés comme des héros de l'exploration spatiale chinoise. Les débris produits par la fragmentation partielle du Tianzhu partaient tous dans la même direction, qui était quasi orthogonale à la direction actuelle de Tiangong, propulsée par Shenzhou.
il ne risquait pas d'être impacté par un de ces morceaux du module de ravitaillement. Mais il faudrait calculer une nouvelle trajectoire pour la phase de retour, afin de ne pas croiser ce nouvel essaim de débris. Li Tang et Guo Chang reçurent l'ordre du centre de contrôle d'enfiler leurs combinaisons pressurisées et leurs casques, et d'enclencher la procédure d'urgence. Le colonel Tang devait s'installer dans le module de rentrée jusqu'à la fin de la manœuvre de retour, tandis que le commandant Chang devait surveiller l'environnement de la station et du Shenzhou en visuel à travers le hublot. Au moindre soupçon d'apparition d'un débris à proximité des engins spatiaux ou de la perception d'un choc ou d'une vibration anormaux, Chang devait rejoindre au plus vite Tang dans le module de rentrée et déclencher simultanément le désarrimage du Shenzhou de la station et la séparation du module de rentrée du Shenzhou. C'était une mauvaise nouvelle pour les deux taïkonautes, parce qu'il restait encore près de 2 heures de poussée avant d'atteindre l'orbite objectif, puis effectuer la manœuvre permettant de remettre le Shenzhou sur le chemin du retour et de pouvoir séparer de façon nominale les modules du Shenzhou et d'amorcer la rentrée atmosphérique. La phase de vol dans le module de rentrée exigu, même s'il n'était que 2 pour 3 places, durait moins d'une heure en temps normal. Tang devrait rester attaché à son siège de retour pendant au moins 4 heures sans pouvoir bouger et serait désormais aveugle sur la situation extérieure puisque le module de rentrée, contrairement au module orbital, était une capsule entourée d'un épais bouclier thermique qui n'avait pas de hublot vers l'extérieur. Il ne devait compter que sur les indications de Chang qui se trouvait 1,50 m au-dessus de lui. Ils avaient convenu que si Chang ne voyait rien ou ne ressentait rien d'anormal, il donnait le signal « OK » tous les 5 minutes. Dans le cas contraire, il devait crier « Débris !» et sauter dans le sas du module de rentrée tandis que Tang fermait tout et désarrimait. Les deux taïkonautes devaient aussi se tenir prêts à se désarrimer de Changgong au signal du centre de contrôle et à séparer à tout moment les 3 modules de Chanzhou pour libérer la capsule de rentrée à la demande du directeur de vol. Le plan de vol était toujours d'atteindre l'orbite 1200 km et d'effectuer un retournement à 180 degrés suivi d'une petite poussée avant le désarrimage et le retour. Tiangong avait débuté sa poussée à 360 km d'altitude. Cela faisait maintenant 1h50 que Chang scrutait l'extérieur dans la crainte d'apercevoir un débris. L'altitude était maintenant de 1170 km. Ils arrivaient à l'objectif. Cette zone était théoriquement beaucoup moins dangereuse que la zone comprise entre 300 et 600 km. Chang et Tang étaient heureux d'avoir réussi cette mission particulière et d'avoir emmené la station Tiangong intacte en sécurité. La manœuvre de retournement allait commencer, de manière à ralentir la station et à fixer son nouveau mouvement orbital. Avant de rejoindre Tang dans la capsule de rentrée, Li Chang jeta un œil vers la droite du hublot. Il n'avait jamais vu la Terre d'aussi loin. Il songea soudain qu'aucun astronaute, autre que ceux des missions Apollo, n'avait été aussi loin de la Terre. Il regardait la fine atmosphère qui semblait si fragile face à cette immensité. Il savait aussi qu'ils étaient les 2 derniers hommes en orbite et il était probablement le dernier avant très longtemps à pouvoir admirer la Terre vue de l'espace. Il en profita encore quelques minutes, puis se glissa dans le sas de la capsule de rentrée. C'est le colonel Tang qui effectuait la manœuvre de retournement en manuel. Les paramètres de mouvement avaient été fournis par le directeur de vol. On ne cherchait pas une très grande précision sur l'altitude. Il fallait surtout s'assurer que la vitesse correspondait à la forme de l'orbite qui avait été calculée. C'était presque un jeu d'enfant pour Tang, qui en avait vu d'autres au cours des entraînements. Une fois les paramètres souhaités atteints, Li Chang et Guo Tang prononcèrent la phrase rituelle d'adieu à la station spatiale et Tang appuya sur le bouton de désarrimage. Le Tianzhu commença à s'éloigner sans que les 2 taïkonautes puissent assister au spectacle par le hublot. les panneaux solaires de la grande station étaient illuminés par le soleil dans un silence assourdissant. Pour la phase de retour, le centre de contrôle voulait minimiser les risques de collision avec un débris. Pour cela, le vaisseau devait être de la plus petite taille possible. Chang et Tang devaient séparer les trois modules du Tianzhu à l'altitude de 1000 km et effectuer les dernières centaines de kilomètres dans la capsule de rentrée. Ils produiraient ainsi deux nouveaux débris de grande taille sur une orbite élevée, inhabituelle pour des modules de service et orbitaux de Soyouz ou de Tianzhu, dont il était une copie quasi à l'identique. Mais c'était le prix à payer pour avoir une plus grande probabilité de ramener les deux taïkonautes sains et saufs. Il ne leur restait maintenant plus qu'une heure avant de marcher à nouveau sur le sol de la République populaire et laisser l'espace vide d'habitants pour une durée indéfinie, si ce n'est infinie.